La bravoure reconnaît la bravoure. Il est exclu que le prince, comme au temps des armes blanches, saute le premier dans les rangs ennemis, mais certes, il doit le faire à la dernière extrémité. Voilà qui donnera beaucoup à redire. Mais chacun peut prendre sur la guerre la position qu'il voudra. Personne ne peut la nier. Je m'efforce quant à moi, dans ce livre où je veux faire ma paix avec la guerre, de la considérer comme une chose qui a toujours existé, qui est en nous, de la peler de toute écorce de représentation pour dégager la chose en soi. Sur la guerre ainsi contemplée à partir de son centre, il n'y a qu'un seul point de vue possible, c'est le point de vue le plus viril. Le prince a le devoir de mourir dans le cercle de ses derniers fidèles. Les foules innombrables qui l'ont précédé dans la mort sont en droit de l'exiger. L'idée pour laquelle tous se sont battus l'exige. Si le soldat reconnaît par sa mort qu'il tient l'idée pour supérieure à sa personne, cette même profession de foi s'applique obligatoirement au chef, défenseur le plus éminent de l'idée, sans quoi il apparaît bien que le chef et l'idée ne sont plus liés par un rapport nécessaire. Il est remarquable de voir à quelle vitesse toutes les formes extérieures d'une armée deviennent façades dès lors que la bravoure ne les habite plus de sa force motrice. Pas de parade claquant sec, médailles et drapeaux au vent perdent leur valeur de symbole, se dégradent en spectacle pour avortons et vieillards lorsque le souffle ardent de la bravoure ne les baigne plus de ses feux. Tout cela n'est que l'atour rutilant du viril, non sa substance véritable. La bravoure est son propre salaire, le lien qui lie ensemble les égaux. Si l'homme du front regardait de haut tous les voituriers qui peuplaient les arrières, il se sentait plus proche de l'adversaire combattant, du simple cochon de front d'en face. Tout cri de haine et suspicion de faiblesse. Seule la bravoure reconnaît la bravoure.